C'est le face-à-face du mardi et ils sont là tous les deux, Laurent Geoffrin pour le Nouvel Observateur, Nicolas Bétou pour le groupe Les Échos, et ils sont là à se demander pourquoi nos dirigeants, les dirigeants politiques européens, semblent aussi impuissants à sauver la zone euro. Et c'est vrai qu'on est quand même assez interloqués par la concordance des événements avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy qui annoncent quand même des choses très importantes pour l'Europe et pour la zone euro. Et cette nuit, Standard & Poor's qui dit, bon, globalement, si rien ne change, dans 90 jours, vous serez dégradé et la France même un peu plus que les autres. Question que je vous pose, Nicolas Bétou, pourquoi on semble si impuissant ?
On semble si impuissant, je pense que le mot important c'est « semble » parce que effectivement il y a deux explications à mon avis. D'abord un problème de timing et de séquence qui se recouvre plus ou moins, et ensuite un problème de lunettes grossissantes. On commence par le problème de timing. Les marchés sont dans l'instantané. Les marchés sont dans la réaction ultra rapide et ne gèrent que leur propre calendrier. Alors que les États sont dans des séquences qui sont plus longues et gèrent le leur. Et donc il y a un manque de coïncidence. Alain Juppé ce matin, à votre micro, l'a très bien rappelé. Il y a un manque de concordance entre ce que font les politiques et les différents pays pour essayer de résoudre cette crise de la zone euro et la mécanique qu'a lancé Standard & Poor's et d'autres agences dans son propre timing. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est le problème de lunettes grossissantes. On a, nous, l'impression que chaque étape marque la fin de la crise. Mais c'est pas vrai. C'est une crise qui est extraordinairement profonde et dont on a déjà résolu pas à pas, étape après étape, les principales menaces. Je vous rappelle les choses, hein. Menace de faillite de la Grèce, menace d'emporter l'ensemble de la zone euro, en passant par l'Espagne et l'Italie, dans un tourbillon absolument impossible à maîtriser. Ensuite, on a remis de l'ordre, on a commencé à remettre de l'ordre dans les finances publiques avec des plans d'austérité un peu partout en Europe, là où il fallait payer et où les finances publiques avaient creusé leurs trous. Donc,
mais qu'est-ce qu'il faut pour assurer les marchés ? Est-ce que par exemple, l'idée de ce nouveau traité, parce que c'est quand même un changement de règles du jeu, ça pourrait changer le...
Ça peut changer la...
Non, mais je suis impatient.
Je vais répondre après.
Allez-y Laurent.
Je trouve que cette agence de notation est totalement irresponsable.
Ouais.
Comme la plupart des agences d'ailleurs, qu'elle fasse son travail, qu'elle évalue les risques pour les créanciers, c'est normal. Elle pourrait au moins avoir la courtoisie élémentaire de se caler un peu sur les dirigeants élus.
Sur le calendrier.
Qui sont quand même plus légitimes que ces économistes de 35 ans, que personne ne connaît, dont la compétence est tout à fait d'ailleurs, suspecte parfois.
Donc vous êtes d'accord, il y a un problème de timing.
Ils se trompent.
Il y a un problème de timing, de concordance des temps.
Oui, mais ça c'est dit en chose élégante. Je dis que c'est irresponsable.
On se dit qu'ils auraient peut-être pu annuler cette annonce.
Non, mais ils auraient pu la reporter. Et pourquoi ils ne le feraient pas ?
Parce que la crise n'est pas finie. Crise n'est pas finie. Parce qu'on met en place petit à petit les éléments. Non, je dis simplement.
Ils auraient pu la décaler.
Laurent, ça veut dire simplement que. Les agences de notation. Ok, très bien. Pour l'élégance. Mais les agences de notation nous disent. Ok, vous avez fait un grand travail, la crise n'est pas finie, on est aujourd'hui face à deux risques principaux, un risque politique, est-ce que le sommet européen va entériner ce qui a été signé hier, et le deuxième risque est un risque économique, est-ce que tout ça nous amène vers une récession, comment est-ce qu'on la gère ?
Moi je n'aime pas ce discours sur l'impuissance générale des politiques. D'abord il est faux, et deuxièmement il est politiquement tout à fait contestable. Si les politiques n'avaient pas été là, on serait actuellement dans une dépression comparable à la crise de 1929.
Exact.
Ce sont les marchés financiers qui nous ont mis dans cette situation, ce ne sont pas les politiques. C'est l'éclatement d'une bulle spéculative, le système bancaire qui est irresponsable lui aussi.
C'est aussi l'impression que ça donne. Les politiques agissent et on a l'impression qu'ils agissent.
Parce que, disons, on oublie toujours les mots auxquels on a échappé. Mais on a échappé à une récession carabinée depuis 2 ans. C'est pas encore joué, je vous l'accorde, et on a l'impression que la crise est très difficile à juguler, ça prendra beaucoup de temps. Mais si les gouvernements en urgence ne s'étaient pas réunis pour agir et prendre des décisions dramatiques, y compris contre leurs propres convictions souvent, eh bien nous serions aujourd'hui dans une baisse de la production extraordinaire, Laurent, avec un doublement du chômage.
Laurent Geoffrin, vous n'avez jamais vu être à ce point-là d'accord avec moi, on est d'accord sur tout.
Ça veut dire que vous arrivez à la raison, c'est une bonne chose. Alors je termine, il y a une impuissance des politiques, mais c'est l'impuissance volontaire. Bétou ne va pas être d'accord, c'est quand les hommes politiques abdiquent devant les marchés. Ce qui est le fait, en général, pas toujours d'ailleurs, mais souvent, de la droite libérale, parce qu'ils n'osent pas toucher aux choses. Aujourd'hui, il y aurait une solution assez simple, dans certaines limites, pour, d'ailleurs c'est une chose que réclame Sarkozy, pour rassurer les marchés, comment dire, rassurer les créanciers pour être plus précis, c'est que la Banque Centrale Européenne intervienne beaucoup plus énergiquement pour reprendre les obligations.
Elle l'a fait déjà. Si, elle l'a fait déjà. Et il n'ose même pas le dire.
Non, il n'ose même pas le dire.
Simplement pour donner le sentiment que cette Banque Centrale Européenne est toujours indépendante.
Mais l'erreur est là.
Non, c'est un des tabous. Et c'est très important. Les banques centrales, lorsqu'elles sont sous domination politique, risquent de devenir aussi faibles que les politiques.
Enfin, la Banque Centrale nous a conduit une
ensemble. L'Allemagne voulait deux choses. Un rôle inflexible de la Banque centrale, et deux, que la justice puisse punir les politiques. La France a obtenu que ni l'un ni l'autre ne soit mis dans le traité. Et c'est très important. Et pourquoi est-ce que l'Allemagne veut ça ? Parce que l'Allemagne est le seul pays à ne pas avoir, comme la France, dérapé en permanence dans ses finances publiques depuis des années et des années. Et je vous rappelle...
Ça aurait pu être en mesure, ça, de rassurer, comme on dit, rassurer les marchés...
Dans un premier temps, oui. Après, il faut que ça soit assorti de mesures de...
On peut encore le sauver, ce triple A ?
Oui, bien sûr.
Oui, mais je reviens sur l'histoire de la Banque Centrale. C'est important parce que toutes les banques centrales du monde fonctionnent différemment de la BCE. Toutes. Et on s'habitue à cette idée que c'est les banquiers qui n'ont absolument aucun compte à rendre à personne, qui dirigent tout. Mais c'est pas normal. C'est pas normal et c'est aberrant du point de vue même de la comparaison avec les grands pays. On s'est mis volontairement, alors pour le coup, les politiques européennes se sont mis volontairement entre les mains de gens qui d'abord ne sont pas élus et deuxièmement n'écoutent rien de ce qu'on leur dit, sauf quand l'incendie menace de tout mettre à...
Encore une fois, ce qui s'est passé hier est différent. La Banque Centrale Européenne trouve une latitude pour intervenir. Donc il ne faut pas dire
comme quoi
ça
c'est
va
possible.
Être différent.
Je voudrais qu'on écoute un auditeur d'RTL qui nous appelle de talent. C'est Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour Laurent. J'écoute avec attention. Ce qui m'étonne, c'est que les hommes politiques qui ont influé et qui ont amélioré les choses par rapport à 29, on n'arrive pas à avoir un point international de tous les politiques confondus pour obliger les créanciers à être raisonnables et à sortir des taux usuriers. Je rêverais d'un système où on rembourse, on doit rembourser parce qu'on s'est endetté, mais au moins on a une espèce de taux fixe qui garantit qu'il n'y aura pas un taux usurier qui va dépasser...
Vous voulez dire que ce qui vous étonne, Jean-Marie, c'est que certains doivent rembourser à 2% et d'autres, aujourd'hui, on voit par exemple la Grèce qui est obligée de rembourser à combien, Nicolas Bétou
Ils sont montés jusqu'à 6-7%.
Ouais. Mais ils ont fait défaut.
C'est la règle absolue. Je veux dire, un particulier, lorsqu'il emprunte et qu'il se surendette, il rentre dans un mécanisme dont il peut sortir avec des moyens de sauvetage. Mais les banques... Le principe, il est très simple. Quand vous empruntez, vous prenez un risque. Mais quand vous prêtez, vous prenez un risque aussi. Et le taux d'intérêt, c'est une manière de dire, pour celui qui prête de l'argent, de dire, écoutez, si vous me faites courir un très gros risque, alors je veux une très grosse rémunération. C'est aussi simple que ça.
Moi, j'ai une question, alors, pour le coup aussi, très simple à vous poser. Est-ce qu'avec les mesures qui ont été annoncées, ça va suffire à sauver notre triple A? Ou est-ce qu'il va falloir encore, peut-être, serrer la vis et pourquoi pas un troisième plan de rigueur?
Moi, j'ai une inquiétude. Parce que là, si on met tous les politiques dans le même sac, ça n'est pas vrai. Ils proposent des solutions différentes. Quand vous regardez la vie politique allemande, le SPD ne propose pas la même politique que la droite allemande.
Le SPD propose la règle d'or. C'est intéressant pour les socialistes français de s'en inspirer.
C'est le seul point sur lequel ils sont en désaccord. Tous les autres, ils sont d'accord. Et ils sont totalement en désaccord avec Merkel et Sarkozy. Et c'est le seul point. On présente ça toujours comme un différent franco-allemand.
Sur la règle d'or.
C'est un différent droite-gauche.
Le SPD est d'accord sur la règle d'or.
Lisez le discours d'Helmut Schmidt, lisez les discours qu'il a prononcés.
Helmut Schmidt n'est pas député allemand. Je suis désolé.
Il a été applaudi par tout le SPD. C'est l'opposition allemande.
Les députés allemands ont voté à la quasi-unanimité la règle d'or.
Je vous répète, lisez les discours.
Helmut Schmidt a dépassé les 90.
Et la règle d'or, tiens, puisque vous en parlez, la règle d'or, ça aussi, ça serait susceptible.
Je n'ai pas fini.
Bien sûr.
Encore une fois, on présente ça comme un différent franco-allemand. Il y a deux idées de l'Europe. C'est pas une idée allemande, une idée française. Il y a une idée conservatrice. C'est logique, vu que Merkel et Sarkozy sont des conservateurs. Il y a une idée social-démocrate. L'opposition allemande, comme l'opposition française, d'ailleurs, propose une autre politique qui est budgétairement moins rigoureuse. Et qui est sur le plan monétaire plus ouverte, plus libérale. Et c'est là-dessus qu'il faut discuter, et non pas d'un supposé différent franco-allemand qui n'a pas
l'occasion d'un autre.
Alors
débat.
Je vais répondre sur la règle d'or. Il est obsédé par la règle d'or.
Mais elle existe déjà.
C'est malheureusement terminé. Merci. Vous reviendrez pour le deuxième épisode, évidemment.
Pour lui expliquer ce que c'est que la règle d'or.
Laurent Geoffrin et Nicolas Bétou. Merci, messieurs.